hors de la prophétie, et que par conséquent, et à l'intérieur même de cette définition commune, la prière c'est la voie de l'homme vers Dieu, la prophétie c'est la voie de Dieu vers l'homme. Que la conduite est formellement identique, c'est la voie telle qu'elle passe entre le Créateur et la créature. Dans le sens de Dieu à l'homme, il s'agit de la prophétie, dans le sens de l'homme à Dieu, il s'agit de la prière. Et que par conséquent, la conduite de la prière est de l'ordre de la prophétie. Et donc, celui qui prie doit être dans l'expérience du prophète. Nous savons d'autre part qu'effectivement, l'enseignement de toute la Bible nous le montre, que les grands priants, si j'ose dire, ceux qui ont prié essentiellement, ont été premièrement les prophètes. Par exemple, je vous ai cité le prophète Habakkuk tout à l'heure, et la première phrase de la prophétie de Habakkuk, c'est « Tefila la Habakkuk », la prière de Habakkuk, le prophète. Eh bien, nous allons lire immédiatement l'éclairage que donne la Gemara à ce sujet. Vous prenez à partir de Gemara. La Gemara pose la première question. Où ? Ça veut dire dans quel endroit du texte de la prière, s'il y a erreur, c'est le signe, un simanra, un mauvais signe, et ce qui est expliqué, comme je vous l'ai dit par la suite, le signe que la prière est refusée. Elle répond. Amar Abichia, Amar Azacha, Mishum Had de Verali, pardon, Mishum Had de Verali, et on enseigne au nom de Abichia, qui enseigne au nom de Rav Zacha, qui enseigne lui-même au nom d'un des élèves de l'école de Rav, qui était la ville de la Kadosh, Bah Avod. La première formule du texte de la prière de demande, c'est une formule qui définit Dieu devant qui nous nous trouvons pour lui demander quelque chose maintenant, quelque chose qui serait de l'ordre du monde à venir, nous le demandons pour maintenant, et nous le définissons comme le Dieu des pères d'Israël. Avot, ça veut dire les pères. Nous nous situons devant Dieu et nous disons à peu près ceci. Nous adressons à toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Première définition. Et ensuite, nous demandons ce que nous avons à demander. Et comme si nous n'avons le droit de demander qu'en tant que nous sommes les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la loi générale était ainsi. Primitivement, on réclamait de l'homme dans la situation de la prière ce que l'hébreu nomme la kavana, c'est-à-dire une attention à cette situation d'être devant Dieu et de lui parler, l'expérience du prophète, une attention, une kavana, une tension, si vous voulez, une ferveur, pendant tout le temps de la conduite de la prière, très rapidement, enfin à travers les siècles. Mais très rapidement, on a jugé que l'homme n'était plus capable de cette attitude de kavana, et par conséquent, on la réclame essentiellement dans l'introduction à la prière, c'est-à-dire la définition devant qui je me trouve. C'est ce qui est immédiatement confirmé. Après, Ika de Matnela, Abraïta, certains enseignent cette même chose en citant un autre texte, Amit Palel, Sarif, Sheikaven, et Pivo, Bekulam. Celui qui prie doit être en ferveur, faire attention à ce qu'il fait, être à ce qu'il fait dans toutes les formules de la prière. Les imenodarol, mais s'il ne peut pas, les kavan de Roulan, mettre cette kavana dans toutes les formules, il kavan et l'ivo veacha, qu'il le fasse au moins dans une des bénédictions, dans une des formules. Et à ce propos, Amar Abichia Amar Asacha, Rabbi Chia dit au nom de Rav Zacha, Mishum Chad de Rabbi, au nom d'un des élèves de l'école de Rabbi, Barabo, c'est dans la première, bénédiction, celle qui se réfère au patriarche, au père d'Israël, c'est-à-dire de Barabot. Et là, c'est à ce propos précisément que la Gemara va nous enseigner cette identification qui est faite dans le comportement entre la conduite de prière et la conduite de prophétie. Avant d'y arriver, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour vous donner une deuxième lecture de la première formule. Cette expression Liot mikaven livo la shamayim. Ça veut dire intentionner son cœur devant Dieu au moment de la prière, a d'abord un premier sens qui nous est donné et par d'autres textes de la Gemara que je vous cite ici parce qu'ils nous semblent extrêmement importants, parce que ça, il semble que ça devrait aller de soi. Le fait de se rendre compte, lorsque l'on prie, de prendre cette conduite au sérieux, de se rendre compte que c'est devant Dieu que l'on se trouve. Et cela implique toute une attitude. Ça devrait aller de soi. Comment se fait-il que la Mishnah, le Talmud, nous donne ça comme une obligation, comme une exhortation supplémentaire? Ça devrait aller de soi. Eh bien, premièrement, c'est extrêmement difficile. Premièrement, c'est extrêmement difficile, c'est-à-dire de considérer que c'est bien devant Dieu que l'on se trouve. Et vous savez qu'il nous arrive, à travers la liturgie de l'année, à avoir parfois, peut-être au moment du Kol Nidre ou au moment de la Meïla, cette expérience directe et réelle. Mais la plupart du temps de la liturgie, le long du calendrier de toute l'année, eh bien, nous avons une kavana de substitut, en quelque sorte. C'est-à-dire arriver à se situer au niveau de l'expérience du prophète. C'est une première indication. Mais la deuxième est extrêmement éclairante. C'est le fait que ce n'est pas à lui qu'il doit penser, mais à Dieu. Et cela inverse complètement la donnée de la définition de la prière. En ce sens que l'homme demande quelque chose pour lui. Et ici la loi nous dit, mais ce n'est pas à lui qu'il doit penser, mais à Dieu. Je voudrais essayer de faire comprendre ce qu'il y a dans cette formule. Que l'intention de la prière n'est pas renvoyée à celui qui prie pour que son manque soit comblé, mais à Dieu lui-même, de qui l'on réclame cette bénédiction supplémentaire. C'est-à-dire que celui qui est en jeu dans le sort de cette prière, sera-t-il exaucé ou pas, ce n'est pas le tzaddik qui prie, mais Dieu à qui il prie. De prier devant Dieu, dans ce sens, ça veut dire pour Dieu lui-même. Parce que tout le proverbe de la création, c'est que Dieu est défini comme celui qui donne l'être. Et le problème fondamental de la prière, c'est comment se fait-il que ce monde-ci ne soit pas déjà tel que Dieu aurait voulu qu'il soit. C'est-à-dire un monde qui porterait avec lui-même l'évidence qu'il a été créé par le Créateur, c'est-à-dire par la source de la perfection de l'être. Et l'objet de la prière, c'est de faire venir plus vite ce monde à venir déjà dans ce monde-ci, c'est-à-dire accomplir la volonté du Créateur. Et lorsque je prie, nous dira le texte, apparemment je demande pour moi, mais en réalité je demande pour Dieu de telle sorte de lui permettre de donner plus que ce qu'il ne peut donner maintenant. Plus le monde est tzaddik, plus Dieu, en quelque sorte, réalise sa volonté de Créateur et donne la plénitude de l'être dans le monde. Donc lorsque le tzaddik prie, c'est pour Dieu qu'il prie avant que de prier pour lui-même, si je veux. Est-ce que c'est suffisamment clair? Bon, alors nous pouvons donc aborder la deuxième lecture. C'est-à-dire, c'est cette kavana-là qui nous est réclamée. Nous pouvons donc aborder la deuxième lecture. Vehim et Noyachol, et s'il ne peut pas, dans toutes les bénédictions, réaliser cette intention de prière, alors au moins dans une, et la première qui s'appelle Avot, c'est-à-dire les pères. Les pères, les noms Abraham, Isaac, Jacob, de la définition de Dieu lorsque nous disons Dieu d'Israël, ça veut dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ça est enseigné de la manière suivante. Et bien évidemment, il est très difficile dans l'intention de prière d'arriver à l'expérience de prophétie telle que c'est devant Dieu que l'on se trouve. Alors en quelque sorte, ici la Gemara nous donne ce qu'on appelle une etza, c'est-à-dire comment traduire cela, nous donne un conseil, j'allais dire un truc, si vous voulez. Réaliser qu'on se trouve devant Dieu, c'est difficile. Alors, il y a un substitut. Au moins, cette cavana peut aller jusqu'au Avot, jusqu'au patriarche. Non pas visualiser, bien entendu, mais enfin, se représenter que nous sommes en présence des tzadikim, qui méritent, eux, que la prière soit exaucée. Les chassidim sont allés encore plus loin dans cette ligne. Simplement ses propres parents. Et Avot, ses propres parents. Et si on arrive à réaliser cette kavana, c'est le premier échelon d'une échelle qui mène finalement jusqu'à devant. Mais dans tous les cas, ceci est une deuxième indiquée. Comme dans cette définition, que la conduite de la prière est de même nature que la conduite de la prophétie. Et par conséquent, celui qui, alors qu'il prie et demande, se trompe, s'est trompé, c'est le signe que sa prière n'est pas exaucée. Et la Gemara va se demander comment comprendre cet enseignement. Alors, nous suivons le texte. Minaïmile, d'où viennent ces paroles, c'est-à-dire quel est le fondement de cet enseignement dans le texte biblique. Amar Yushua ben Levi, d'Amar Keran, le fondement verset d'Isaïe, Boré Nil Sfataï, Dieu est défini dans ce verset d'Isaïe au chapitre 57, que Dieu crée l'expression des lèvres. Lorsque l'homme parle, se produit un phénomène qui est au-delà de l'ordre de la nature, c'est-à-dire qu'il y a une action continuée du Créateur qui permet à l'homme de parler, parce que la parole n'est pas de l'ordre de la nature. Au moment où l'homme parle, et lorsqu'il parle vraiment, et d'une certaine manière, c'est Dieu qui le fait parler. Effectivement, cela nous renvoie à tout le mystère de la parole, de la capacité de parole de l'homme. Très immédiatement, la définition que la Bible nous donne dès le début, de la définition d'identité humaine, il n'est pas seulement vivant, mais il est vivant parlant. Vous voyez que le texte de la Tfila commence d'ailleurs par un verset du psaume 52 et qui dit « Adonai sepatai tiftach ufi agit eilatra ». Il y a d'abord un verset préalable à la prière où nous demandons à Dieu d'accepter de nous faire parler en vérité de telle sorte que la prière soit authentique. C'est relié d'ailleurs à cette indication. Et donc Isaïe dit que celui qui crée l'expression des lèvres, celui qui permet à l'homme de parler, dit à l'homme « Shalom, shalom, paix, la rachok velakarov amar Hashem urfati » à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit « Dieu urfati et je le guérirai ». L'exégèse du verset dans ce sujet est la suivante. C'est que la réponse à la demande formulée devant Dieu nous est donnée par Dieu lui-même dans l'énoncé de la demande elle-même, puisque le fait de parler est de l'ordre de la prophétie. Et à ce sujet, la Gemara élargit le problème en utilisant ce verset pour l'enseignement suivant. Il y a deux catégories d'hommes. Ceux qui sont appelés rachok, loin, et ceux qui sont appelés près. Je relis le verset. Dieu promet la paix, shalom, tant au rachok, à celui qui est loin, qu'à celui qui est près. La Gemara établit que ce verset concerne la destinée des deux catégories d'hommes dont nous avons parlé dans l'analyse précédente. C'est-à-dire, première lecture, celui qui est près de Dieu, le tzaddik, et celui qui est loin, c'est celui qui n'est pas le tzaddik. Et que tant pour l'un que pour l'autre, il y a shalom, c'est-à-dire aboutissement de l'histoire au niveau du tzaddik. Nous pouvons donc maintenant, un peu, si vous voulez, laisser de côté l'introduction concernant le sujet de la prière et embrayer l'analyse sur le verset lui-même. C'est-à-dire, la Gemara nous indique que la prophétie des promesses du monde réussi concerne deux catégories d'hommes. Ceux que le texte nomme « rachok », loin, ceux qui sont loin de la vérité, c'est le Baal Tshuva, et ceux qui sont carreaux, prêts, c'est-à-dire le tzaddik. Et à ce propos, va être introduite la distinction entre ce monde-ci et le monde à venir, parallèlement et corollairement à ces deux catégories d'hommes. Alors nous prenons le texte à la phrase suivante soulignée, « Ve'amar ha'ifriya ba'aba, amar ha'yohana », c'est-à-dire le même enseignant qui a cité le verset pour rendre compte du problème concernant la Kavana de la Tfila, dit ceci. Kol ha-Nevi'im kulam, tous les prophètes, l'on ignorait, non prophétisé, et là, l'immortalachira, que pour les temps du Messie, Abraham et Orlam Abba, mais pour le monde à venir, Aïm Orahata et Rokim Zulatra, c'est un verset qui dit pour le monde à venir, aucun œil n'a vu ce que sera le monde à venir, et Rokim Zulatra, Dieu seul, c'est les voies exagérées. Ou Pliga dit Shmuel, et cet enseignement entre en controverse avec l'enseignement de Shmuel, qui est un des grands enseignants du Talmud, d'Amar Shmuel, parce que Shmuel avait dit, En Bever Orlam Azeli Motam Shiach, il n'y a de différence entre ce monde-ci, c'est-à-dire le temps de l'histoire, et les temps du Messie, Yemot HaMashiach, et là, Shirvud Malchuyot Bilbal, que l'oppression des nations seulement. Je reviendrai sur la définition de toutes les expressions. Et continuez la ligne suivante, ce même maître, ce même Rav enseigne, à propos du même verset, à Rav Yochanan. Rav Yochanan a enseigné, tous les prophètes, non ignorés, non prophétisés, et là le parler de Tshuva, que pour les repentis, avant le tzadikim de mourir, mais les tzadikim et les justes, Aminorata, aucun œil n'a encore vu, Dieu seul le sait. Cela signifie que, d'après cet enseignement, l'ensemble des promesses faites par les prophètes dans la description du monde réussi au temps messianique, concerne les tzadikim devenus tzadikim grâce au mishpat, récupérés par le repentir. Enfin, par le repentir avant même, par le fait d'accepter le jugement comme principe directeur de la vie des sociétés. Tandis que les tzadikim, ceux qui sont d'emblée adéquats avec le tzedek, avec la loi morale absolue, cela, il s'agit du monde à venir, et aucun prophète, l'œil d'aucun prophète, n'a pu encore contempler de quoi il s'agit. Et cela rentre en controverse avec un enseignement de Rabbi Abaou, lequel Rabbi Abaou dit « Makom shebarei tshuva omdim » au niveau où les repentis se tiennent, « Tzadikim gemurim menam omdim » les justes parfaits ne peuvent pas se tenir. Ça veut dire qu'il y a en quelque sorte une valeur plus grande au Rav Tshuva qu'au Tzadik, nous avons pourquoi. Et c'est notre verset qui est cité, Shalom, Shalom, la Rachot de la Karo. La paix est promise à celui qui est loin et à celui qui est proche. Le verset dit d'abord à celui qui est loin, Rachot, et ensuite à celui qui est proche. Ça veut dire que ce sont d'abord les repentis qui seront appelés à l'authenticité, si vous voulez, et ensuite les tzadikim. Et c'est très paradoxal, bien évidemment. Mais nous allons reprendre toute cette lecture. Alors, pour aller dans l'ordre, je vais resserrer les expressions qui vont nous servir dans cette réflexion. Et nous voyons que, immédiatement, après cette équation prière égale prophétie, eh bien, immédiatement, la Gemara élargit son sujet et nous parle de façon parallèle de deux niveaux de la prophétie. Celle qui a été explicite dans la description que les prophètes ont donnée de l'histoire humaine réussie et nous dit ce que les prophètes ont prophétisé, c'est pour les temps du Messie. Et le monde à venir, aucune prophétie n'a pu arriver jusque-là. Parallèlement, nous dit, et ce que les prophètes ont prophétisé, c'est-à-dire les temps du Messie, c'est pour les repentis, les justes du Mishpat, n'est-ce pas? Et le monde à venir, ça c'est pour les tzadikim eux-mêmes. Et puis, ce sont greffés deux controverses, je voulais d'abord parler de la première. La première controverse, c'est l'enseignement de Shmuel. Shmuel qui dit, reprenez le texte, ou pliga de Shmuel, vous voyez, c'est là, troisième ligne après la bifurcation. Ou pliga de Shmuel, dernier Shmuel, et le ben Arama Zelimot HaMashiach, et là, je vous le dis, voilà que Shmuel donne une définition des temps messianiques. Le signe des temps messianiques, c'est la fin de l'oppression des empires. On appelle Shavuot Malchuyot le fait que Eretz Israël était occupée par les empires des différentes civilisations. Et que lorsque cette occupation des terres d'Israël cesse, commence le temps du Messie. Ça, c'est l'enseignement de Shmuel. Et ça signifie quoi? Ça signifie, si vous voulez, le commencement de ce qu'on appelle un peu dans le temps contemporain le temps de la décolonisation. Lorsque se termine ce temps, qui a été tout le temps de l'histoire, où une nation opprimée, une autre. Bien évidemment, la lecture directe concerne le fait qu'Israël est sous la domination des nations. De même que Israël était sous la domination perse, puis grecque, puis romaine. Attendez que je vous donne toute la série. Et à partir de Rome, ça a été donc ensuite les Turcs, les Arabes, les Anglais. Et là, ça s'est arrêté. Eh bien, la fin de Shirgun Malchuyot, c'est le commencement de Yomot HaMashiach, d'après Shmuel. Or, ce signe est important parce que nous le percevons à l'échelle universelle. Et ça a été le temps du commencement de la décolonisation partout. Donc les Hachamim du Talmud disposaient d'une catégorie pour définir le signe du commencement du temps messianique. C'est l'indépendance nationale pour Israël. Or, voici que cela coïncide avec l'indépendance nationale pour tous les peuples qui avaient été, disons, opprimés. Bien entendu, c'est un processus qui n'est pas encore terminé. Et il doit s'agir d'une indépendance réelle et partout où il y a encore des peuples opprimés et ceux qui sont déjà libérés sont quand même aliénés, etc. Mais en fait, c'est le signe que Shmuel donne. Et cela entre en controverse avec ce que disait l'enseignement précédent de Rabbi Hanan, que tout ce que les prophètes avaient décrit concerne les temps du Messie. Selon Shmuel, une seule chose de ce que les prophètes avaient décrit concerne les temps du Messie, c'est la fin de l'oppression par les empires, et que tout le reste des promesses, ça veut dire le monde dans la justice et dans la vérité, le monde où il y a shalom, où il y a la paix, cela, c'est déjà de l'ordre du monde à venir, et que les prophètes eux-mêmes l'avaient écrit. Pensez bien qu'une telle controverse, est-ce que c'est suffisamment clair comme donnée du problème? Pensez bien qu'une telle controverse a occupé les commentateurs pendant des siècles et des siècles. Hein? Une des réponses que je pourrais vous proposer, qui me semble assez compréhensible de notre temps, c'est ceci. C'est que Shmuel parle du commencement des temps messianiques. Le commencement des temps messianiques, c'est-à-dire ce que nous appelons le temps du Mashiach ben Yosef. Le commencement des temps messianiques, son signe est l'indépendance nationale d'Israël. Et il est important de se rendre compte que dans l'histoire, cela a été vu par les prophètes et confirmé dans les faits que c'est le temps de l'indépendance pour toutes les autres sociétés aussi. La date précise, selon cette lecture de Shmuel, c'est très exactement 1917, puisque c'est à ce moment-là que déjà se prépare en germe tout ce grand mouvement qui finalement aboutit à ce qu'on appelle, en termes politiques contemporains, la décolonisation. Et que pendant tout le temps messianique, qui est le temps de l'achèvement de l'histoire de ce monde-ci, s'accomplissent l'une après l'autre les promesses du monde réussi telles que les prophètes l'ont décrit, et que à l'achèvement de ce temps messianique, au moment de l'avènement du Mashiach ben David, c'est-à-dire du Messie de David, commence le Olam Haba, le monde à venir. C'est un peu de cette manière qu'on peut arriver à adoucir, si vous voulez, un peu cette controverse que l'on retrouve d'ailleurs d'autre part entre Nachmanide et Maïmonide, où il s'agit de savoir si au temps messianique le monde continuera à être le monde tel que nous le connaissons, mais comment dire amélioré, en fait plus qu'amélioré, réussi. Vous avez compris. Ou bien, s'il s'agira d'une transfiguration radicale et d'un changement radical du monde naturel. Maïmonide dit que ceux qui vivront en ce temps-là verront bien que les lois du monde continueront à jouer, que les lois de la nature continueront à jouer. Et alors que Nachmanide dit qu'il y aura transfiguration absolue et qu'il y aura, comment pourrait-on dire en français ? changement radical, si vous voulez, des métamorphoses. Oui, alors, c'est une controverse sérieuse, mais encore une fois, on a donné ceci comme ligne de Chara, comme ligne de... Pardon ? Ça ne vient pas en français. De solution, si vous voulez, de la controverse, que l'un parle du commencement des temps messianiques et l'autre parle de la fin des temps messianiques. Mais ce qu'il y a d'autant plus important à comprendre ici, c'est le deuxième parallèle. Celui, l'enseignement de la Burhanan qui dit « Tous les prophètes n'ont prophétisé que pour les tzadikim du Mishpat. » Et les tzadikim, comme on dit, les vrais tzadikim, a priori, pour eux, il s'agit du monde à venir. Alors nous avons là un paradoxe. C'est-à-dire que les tzadikim n'auront pas les temps du Messie. Et que les temps messianiques, tout ce que les prophètes ont prophétisé, c'est uniquement pour ceux du Mishpat. Je voudrais terminer l'analyse sur la réponse à ce point, et qui est la chose suivante. Le tzadik vit déjà dans sa vie, et quel que soit le temps de l'histoire du monde où il a vécu, vit déjà comme s'il était dans les temps messianiques. C'est-à-dire qu'il vit du point de vue de sa relation à sa propre identité, dans sa vie intérieure, et quel que soit ce qui se passe dans le monde extérieur, il vit dans un monde cohérent. Si j'ose dire, et là je n'arrive pas à trouver les mots, il faudrait un poète pour décrire ça, c'est-à-dire qu'il vit dans un monde qui a un sens, parce qu'il a déjà atteint, si vous voulez, la cohérence de la vérité du monde dans son identité de sa vie. À l'extérieur, il semble qu'il y ait un monde étrange où aucune valeur n'est satisfaite, où toutes les contradictions sont possibles, un monde chaotique, un monde absurde, mais c'est à l'extérieur. Et il transporte avec lui un monde messianique intérieur qui fait qu'il a la joie d'être qui a été décrite par les prophètes pour les temps messianiques où l'histoire aura enfin un monde réussi. D'une autre manière, si vous voulez. Nous vivons dans un monde où il y a toutes les raisons de dire qu'il est absurde. Et les seuls hommes qui, cependant, ont l'optimisme de vivre, si j'ose dire, « Betzadik be'emunato ichye » et puis « Orzaro ala tzadik ulishkale psimcha » tous ces versets des psaumes qui disent que le tzadik est dans le bonheur d'être. Et comment le tzadik peut être dans le bonheur d'être alors que le monde est dans l'état où il se trouve? C'est parce que le tzadik, dans son être même, le tzadik vit déjà dans le monde comme si le monde était le monde étant messianique. Il a une sainteté intérieure, une pacification intérieure, c'est une cohérence intérieure qui fait qu'il a déjà goûté dans sa vie, quel que soit le siècle, s'il a vécu au siècle des Huns, ou au siècle de Charlemagne, ou au siècle de Louis XIV, peu importe. Il a vécu dans son monde intérieur le monde parfait. Ce monde-ci réussit. Et lorsque nous lisons les livres de Tzadikim, de quelque siècle que ce soit, nous trouvons la même présence à un monde tel que les prophètes l'avaient promis, décrit, c'est-à-dire au monde réussi, les temps messianiques. D'une certaine manière, le Créateur ne doit pas cette satisfaction d'avoir connu un monde cohérent aux Tzadikim. Parce que les Tzadikim ont connu cette satisfaction et ont traversé l'incohérence du monde à l'abri de leur propre identité de tzaddik. Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez que d'un certain point de vue, le tzaddik n'a aucun problème métaphysique. Il a beaucoup de problèmes moraux, pratiques, comment faire pour continuer à être tzaddik. Mais si vous voulez, la question du doute, est-ce que le monde a un sens? Est-ce que ce qui est vraiment l'expérience tragique de celui qui n'est pas tzaddik, étant donné le spectacle du monde en cours d'histoire, eh bien, ce bonheur intérieur, le tzaddik l'a déjà. Mais les autres, pardon, plus fort, pas toujours, parce que la question était que ça facilite son effort. Comment dire, pas toujours, parce que étant donné la qualité de sa vie intérieure, il a une tendance naturelle à se séparer des autres hommes. Et par conséquent, c'est très difficile pour un tzaddik de tenir le coup, si j'ose dire, dans son être de tzaddik au milieu des hommes. Vous comprenez un peu C'était ce qui est arrivé à Noé dans le verset que nous avons vu avant-hier. Noé marchait avec Dieu. Et c'est pas seulement de l'humour du verset, marcher avec Dieu, ça veut dire qu'il devait quitter les hommes pour pouvoir marcher avec Dieu. Il y a un joli midrash qui dit à propos de Hamor, un des ancêtres de Noé, à la 7e génération de Shem, il y a un verset assez extraordinaire à ce niveau, que subitement, Hamor, qui était un des tzadikim des générations précédentes, Hamor a disparu parce que Dieu l'a pris. Et alors on n'a plus trouvé Hamor. Vous vous rappelez de ce verset pour ceux qui l'ont? Midrash dit que Hamor était un peu comme Noah. Pour pouvoir rester tzadik, il fallait qu'il se sépare des hommes. Énorme paradoxe. En hébreu, Hanor, ça veut dire l'éducateur. Hanor. Hinur, c'est l'éducation. Et voilà que le tzadik, dont la fonction est d'être éducatrice, si j'ose dire, ne peut tenir le coup dans son aide de tzadik que s'il se sépare des Rechaim. Et alors, Dieu l'a pris parce que Hanor priait chaque jour en disant « Mon Dieu, ramène-moi au ciel, je ne peux pas tenir le coup sur terre. » Alors Dieu lui répond « Écoute, au ciel il y a des étoiles, je n'ai pas besoin d'une étoile de plus au ciel, j'ai besoin d'un Hanor sur la terre. Enfin, puisque tu veux venir, viens. » Et vous voyez à peu près cette difficulté. Et la conclusion qu'il faut en tirer, c'est ceci. C'est qu'au moment de l'achèvement de l'histoire, donner comme récompense, si j'ose dire, à un juste le temps messianique, c'est rien du tout. Parce que ce juste, c'est pas une récompense, ça. Parce que ce juste a eu toute sa vie les temps messianiques en lui. Voilà ce que c'est que le marabout nous fait comprendre. Donc la rétribution du tzaddik, elle est au-delà. Et personne n'a pu le voir dans l'histoire. Si vous voulez, à aucun moment il n'y aura que ça, parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Et vous comprenez quelle est la qualité de l'enseignement ici dans la Gemara. Le tzaddik doit avoir la foi qu'il est appelé à un niveau d'être supérieur au sien. En tout cas, nous sommes déjà avertis que ce ne sont pas les temps messianiques qui le concernent. Ça, c'est la compensation qu'on donnera à ceux qui ont fait l'effort du repentir, de telle sorte qu'au moins une fois, dans la destinée de l'éternité, ils aient connu qu'est-ce que c'est qu'un monde cohérent, parce que toute leur vie, ils ont vécu dans un monde incohérent. Donc, pour raconter un peu comment les chassidim racontent un peu ces choses-là, un peu, pour vous les paraphraser un peu, imaginez un chassid montant dans l'autobus, à n'importe quel siècle d'ailleurs. Alors, imaginez un chassid rentrant dans un autobus. Eh bien, il est dans un monde peuplé d'êtres vivants, mais c'est exactement comme s'il rentrait dans un zoo. Voilà. Et puis voilà, lui c'est un homme, et puis il est au milieu d'êtres vivants, et puis personne ne se rend compte de ce qui se passe là. Les gens qui l'entourent ne se rendent pas compte qu'un homme est entré dans l'autobus. Vous comprenez, la vie intérieure est tellement différente. Écoutons les conversations. Bon, alors, on va parler du temps. Je ne sais pas moi, de la qualité du goût du camembert avant-hier, n'est-ce pas. Ou toutes les conversations qu'on a dans l'autobus. Mais quelle est la conversation intérieure du chassid, n'est-ce pas. Il est dans un autre monde. Alors, ce monde du chassid est promis aux habitants de l'autobus lorsqu'ils feront l'effort d'accéder par le Mishpat. Mais le chassid, lui donnait ça comme récompense, l'autobus étant messianique, lui, ça lui coûte. Écoutez, on peut, si vous voulez, comprendre ça de la manière suivante. C'est que on est très étonné de voir. Enfin, je parle en marchant sur les œufs, si j'ose dire. On est très étonné de voir que, apparemment, semble-t-il, les générations précédentes de notre histoire possédaient des grands hommes, et que nous arrivons dans ce temps messianique tel que Shmuel l'a défini, je pense que c'est suffisamment clair qu'on y est entré, avec des hommes de petite envergure. Comme si nous étions tous des tzadikim du Mishpat, venus chercher leur ta'am d'un monde qui aurait un peu de cohérence, alors que nos tzadikim sont déjà très loin, ils sont déjà dans la main. Est-ce que c'est un peu clair? Comme si ça se passait comme ça. C'est-à-dire que si un jour nous sommes frappés par cette impression, mais enfin, où sont nos grands hommes? Semble-t-il que notre peuple gigantesque, c'est un peuple de géants en tant que collectivité Israël. Mais à l'échelle des individus, toutes les médiocrités sont possibles. Alors comment se fait-il que
à l'échelle des individus, il y ait cette possibilité de toutes les visions. Peut-être qu'il y a là un petit commencement de réponse. Parce que nous sommes les tzadikim du Mishpat, mais pas les tzadikim du Mourim. Est-ce que c'est clair? Enfin, c'est un beau midrash, mais enfin, entendez-le comme ça, mais je pense qu'on peut le comprendre. En quelque sorte, nous sommes les fins de série de récupération. Alors ça, c'est visible. Ensuite, d'ailleurs, la Gemara nous définit ce que sera quand même ce Olam Haba, mais nous avons essentiellement ces deux lignes parallèles, hein, que la prophétie nous donne l'ordre de la description de l'histoire dans son achèvement, de tout cet effort d'engendrement du monde juste que l'on appelle le temps messianique, et que précisément c'est cette compensation à ceux qui ont vécu à la manière des animaux toute leur vie et ne se sont même pas rendu compte qu'ils vivaient à la manière des animaux, qui n'ont jamais goûté le goût de la vie vraie, eh bien cela, c'est pour eux le temps messianique. Mais les tzadikim, meikara, ceux qui étaient, si vous voulez, du niveau le plus haut, d'emblée, comme par nature, coïncident avec la créature authentique, alors pour cela, il s'agit déjà de l'ordre du monde à venir. Mais ne croyez pas que ce sont simplement, si vous voulez, des catégories séparées. Il s'agit, dans tous les cas, d'une identité en mouvement. Et le temps du monde messianique mène, pour chacun et pour toutes les destinées individuelles, au temps du monde à venir. Et ce que nous appelons le monde à venir, d'autre part, n'est que le premier échelon de toute une série de niveaux à gravir. Et je conclurai, enfin j'arrêterai ici l'analyse en citant ce que dit le Rav Nachman de Breslov à ce sujet. De la même manière que pour pouvoir accéder à l'expérience de l'être du monde à venir, il faudra se désintoxiquer de ce qu'ont été les jouissances les plus pures de l'être de ce monde-ci. Parce que sinon, si vous voulez, la conscience ne sera pas disponible à percevoir le bonheur d'être au niveau de la perfection, si elle est encore occupée aux exigences, aux tendances ou aux jouissances à laquelle elle était occupée dans l'être animal, quasi-animal, que nous avons eu dans ce monde-ci. Ce qu'on appelle Havot HaKever. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de se désintoxiquer de ce que nous avons appelé la vie dans ce monde de l'acquisition du mérite, de telle sorte de pouvoir accéder à la perception de la volupté d'être, du hocher, du bonheur vrai. Et il ajoute de la même manière, pour passer au paradis suivant, si j'ose dire, au Olam Haba suivant, il faudra se désintoxiquer du bonheur d'être, du Olam Haba lui-même, pour passer. Et il dit « Ve en la dabar sof » jusqu'à ce qu'on arrive à « en sof ». C'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit, si vous voulez, de cheminement de degrés en marche. Mais il y en avait un qui a concerné les prophètes. Et c'est ce monde-ci, le monde dans lequel nous sommes. Il n'a même pas l'allure d'un monde. Je vous citerai une fois de plus, l'enseignement du Rav Nachman de Breslov, que j'ai cité il y a peut-être un ou deux ans, et qui disait un jour à ses élèves, on parle de Olam Hazé et on parle de Olam Haba, on parle de ce monde-ci et le monde à venir. Il dit, le monde à venir, on comprend, puisqu'on ne comprend pas. Enfin, le monde à venir, on comprend à quoi ça correspond. Un monde vrai. Mais Olam Hazé, ce monde-ci, nous sommes. Qu'est-ce que c'est? Le monde où nous sommes, ça a l'air d'être l'enfer. Vous voyez, après, il dit, Olam Hazé, Kéinam. Et effectivement, lorsqu'on se rend compte de ce qu'est la vie de l'histoire, il en est ainsi. Et par conséquent, les prophètes ont vu cela, ont décrit cela. Un monde de la vie biologique, du temps de l'acquisition du mérite, mais qui quand même serait cohérent, qui quand même serait compatible avec l'honneur de Dieu, si je veux dire, en tant que créateur. Ils ont vu ce monde-là, ils l'ont nommé les temps messianiques. Et ils nous ont donné les critères. C'est-à-dire un monde où la société humaine vivrait au niveau d'une société humaine et non pas au niveau de la société animale, la société des intérêts, pas, où la légalité, la moralité sont distinguées, etc., etc., ce qui mène au monde des contradictions que nous connaissons. Alors ils ont vu ce monde-là et ils l'ont promise, si vous voulez, comme compensation de l'effort de vertu à ceux qu'ils n'ont jamais connu dans leur histoire, à ceux qui n'ont pas vécu comme des tzadikim, mais qui ont vécu, à la limite, finalement, comme des behemoth. Alors ceux qui acceptent le mishpat sur eux, ont promesse de goûter un jour au monde d'une normalité qui est le monde des temps messianiques. Ce qui est important, c'est de voir effectivement comment, avant l'histoire de notre temps, et à travers cette histoire, les Chachamim de la Gemara ont posé l'équation de ce problème. Bien, voilà ce que je voulais rappeler ce soir à propos de ce troisième point, donc le Mishpat. La fonction du Mishpat, c'est effectivement de récupérer, si j'ose dire, dans la société des tzadikim, ce qui n'était pas a priori tzadikim, et cela est possible à tous, il y a d'ailleurs aussi d'autres critères, mais enfin, il suffit de comprendre la relation à l'institution de la justice en tant que Mishpat, et qui récupère au sein du Tzedek ce qui n'était pas tzadikim eux-mêmes. La raison pour laquelle la Gemara avait achevé par une indication apparemment paradoxale, et ceux-là finalement sont plus hauts que les autres, nous mènerait au bord d'une étude aussi longue, mais enfin, peut-être nous la reprendrons un jour, mais en tout cas, elle est très féconde. Elle nous enseigne quelque chose de très important. C'est que même l'expérience de l'errance, si vous voulez, plus que l'erreur, enfin, même l'expérience de la déviation, qui semblerait être l'absurde, le non-sens absolu, est récupérée comme telle et est féconde, et elle servira à quelque chose. À quelque chose de plus, à quelque chose de plus que ne possède pas le tzaddik qui n'a pas fait cette expérience, bien entendu. Tout ceci au bénéfice de la sincérité, de la bonne volonté. Et, parce que là toutes les hérésies sont possibles, vous comprenez pourquoi. Et je terminerai peut-être par cette dernière citation, c'est qu'au moment du Mishpat, au moment donc où celui qui n'était pas adéquat à la loi accepte le jugement de la loi sur lui, et c'est le moment de la Tshuva, à ce moment-là, les fautes qui avaient été commises sont transformées en mérite. Peut-être nous terminerons sur cette analyse. Je vais rentrer d'abord une anecdote du Midrash à ce sujet. On raconte que un rabbin dans sa communauté donnait cet enseignement c'est une gemara mefourechet. Si la teshuva, si le repentir est authentique, tout ce qui avait été des démérites sont transformés en mérites. Et il expliquait de la manière habituelle, la teshuva est une conversion d'identité du mal en bien, et plus intense était le mal, plus dense sera le bien. Par conséquent, plus la faute était grave, plus le mérite d'être sera grand au moment du repentir, et au niveau d'une analyse psychologique élémentaire, c'est facile à comprendre. Alors, un de ses paroissiens, si j'ose dire, qui était un pêcheur endurci, est allé le voir. Il dit, qu'est-ce que c'est ces choses incroyables que vous racontez ? Il dit, moi je suis plein de fautes. Et il s'est mis à énumérer toutes ces fautes. Pas du point de vue du repentir, mais ostentatoirement. Je ne mets pas les tefillines, je ne mange pas cachère, je n'aime pas mon prochain, enfin, il viole toute la loi. Et il s'en vante, il dit, et puis c'est mon idéologie, je ne suis pas bête. Bon. Et bien, alors, le rabbin lui a dit, je t'envie. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, tu m'envies ? Il dit, oui, parce que toi, quand tu vas te repentir, tu vas avoir un mérite considérable que j'atteindrai jamais, parce que moi, ces fautes-là, je ne peux pas les faire. Alors, le Seigneur réfléchit, il dit, mais tu parles sérieusement. Bien sûr, je ne sais pas sérieusement, je t'en dis, parce que tu seras un jour plus grand que moi, parce que moi, vous comprenez pourquoi, par quel procédé, et moi je suis incapable de faire ces choses-là. Que il a bien réfléchi, il s'est repenti, il est devenu plus grand que son rabbin. Bon, alors vous avez la parole.